Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous accueillir ce soir. Donc, nous sommes quatre étudiants de l'UT de Digne-les-Bains et nous nous retrouvons donc avec Elouan, Blandine et Soizic sur Graines d'UT pour notre part vous parler de l'effet Mathilda. Donc bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc ce phénomène est observé dans le domaine de la recherche et désigne la tendance à minimiser ou nier la contribution des femmes scientifiques aux divers travaux et découvertes. Donc, des fois, ils sont attribués à d'autres, donc notamment leur homologue masculin. Et ce phénomène a été théorisé en 1993 par l'historienne des sciences Margaret Rositer. Donc, nous allons vous retrouver très vite, juste après la musique de You Don't Own Me de Leslie Gore, donc, qui a été apparue dans les années 60 et qui revendique l'indépendance féminine. Nous revoilà pour parler de l'effet Mathilda, donc un peu plus en détail. Comme nous l'avons dit précédemment, donc ce sont tout bonnement des femmes oubliées qui ont longtemps été injustement méconnues et voire encore aujourd'hui. Donc on peut se demander pourquoi tant de femmes scientifiques restent dans l'ombre alors qu'elles ont fait des découvertes importantes quand même. Donc beaucoup sont les femmes qui n'ont pas accédé à la reconnaissance qui leur était due pour leurs découvertes ou alors seulement des années plus tard. Donc la minimisation de leur contribution n'est qu'un phénomène, donc l'effet Mathilda. Mais pourquoi cet effet se nomme comme ça? Qui est Mathilda?
L'effet Mathilda, il a été théorisé par l'historienne des sciences Margaret Rositer, qui a mis en lumière cette tendance à minimiser, voire effacer les contributions des femmes dans la recherche scientifique. Donc son travail, il s'appuie sur une autre théorie développée dans les années 60 par le sociologue Robert King Merton, qui lui a théorisé l'effet Mathieu. Donc Merton, il avait observé que la reconnaissance scientifique profitait souvent aux figures les plus en vue, au détriment de leurs collaborateurs, qui sont pourtant essentiels aux découvertes. Et donc Margaret Rositer, elle va aller plus loin. Au début des années 80, elle constate que cette inégalité, elle est encore plus marquée lorsqu'il s'agit des femmes. Et donc elle va formaliser alors l'effet Mathilda en hommage à Mathilda Jocelyn Gage, qui est une militante féministe du 19e siècle et qui dénonçait déjà la manière dont certains hommes s'appropriaient les idées des femmes. Donc c'est un phénomène encore ancien, mais qui aujourd'hui est encore un peu d'actualité.
Merci beaucoup. Du coup, j'aurais voulu savoir si vous aviez des exemples des femmes oubliées et de leurs travaux scientifiques. Donc je sais que Swazik va nous parler de Ida Noddack, donc qui a découvert l'uranium.
Oui, alors Ida Noddack, c'est une chimiste physicienne allemande. C'est une pionnière de la chimie nucléaire. Elle a découvert le rhénium, donc un élément chimique, et c'est le dernier élément stable du tableau périodique. C'est un métal rare qui est aujourd'hui utilisé notamment dans l'aviation ou encore l'industrie. Elle l'a découvert en 1925. Enfin, elle a fait cette découverte avec Walter Noddack et son futur mari et Otto Berg. Et en 1934, elle anticipe la possibilité de la fission nucléaire. Donc la fission nucléaire, c'est un phénomène par lequel un noyau atomique lourd est scindé en deux ou en quelques nucléides plus légers. Donc la réaction s'accompagne d'une émission de neutrons et donc d'un dégagement d'énergie important. Ida Noddack, elle fait partie de la première génération d'étudiantes en Allemagne et elle n'a jamais eu de prix Nobel, que ce soit seule ou avec son mari.
Merci beaucoup. Ensuite, Elouan va nous présenter Lise Meitner, qui a théorisé la fission nucléaire.
Alors, Lise Meitner, née en 1978 à Vienne, en Autriche, passionnée par les sciences, elle devient l'une des premières femmes à obtenir un doctorat en physique à l'université de Vienne. À une époque où les femmes sont souvent exclues des laboratoires, elle persévère et se spécialise en physique nucléaire. En 1907, elle s'installe à Berlin pour travailler avec Otto Hahn, un chimiste. Ils forment une équipe brillante. Meitner s'occupe de la physique théorique, tandis que Hahn se concentre sur la chimie expérimentale. Malgré ses compétences, elle doit travailler sans salaire et dans un sous-sol, car l'université n'autorise pas les femmes à accéder au laboratoire officiel. Dans les années 1930, Meitner et Hahn étudient les réactions nucléaires. En 1938, après l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie, Lise Meitner, juive par ses origines, doit fuir en Suède. Depuis l'exil, elle continue à collaborer avec Hahn par correspondance. Fin 1938, Hahn lui envoie des résultats expérimentaux surprenants. Lorsqu'il bombarde de l'uranium avec des neutrons, l'atome se divise en éléments plus petits. C'est Meitner avec son neveu Otto Frisch qui comprend et explique théoriquement le phénomène. La fission nucléaire. Elle compare cette division à une goutte d'eau qui se déforme puis se sépare. En 1944, le prix Nobel de chimie est décerné à Otto Hahn, seul pour la découverte de la fission nucléaire. Meitner, pourtant co-découvreuse et responsable de l'interprétation théorique, n'est même pas mentionnée. Certains membres du comité Nobel, influencés par les préjugés de genre, minimisent sa contribution. Bien qu'elle n'ait jamais reçu de prix Nobel, Lise Meitner a quand même été honorée plus tard d'un élément chimique à son nom, le métharium. Elle a aussi reçu de nombreux prix scientifiques et est devenue une figure du pacifisme en refusant de participer au projet Manhattan qui a conduit à la création de la bombe atomique. Elle meurt en 1968, mais son héritage scientifique perdure. Son histoire symbolise parfaitement l'effet Matilda, une femme brillante dont les contributions ont été éclipsée par ses collègues masculins.
Merci beaucoup. Maintenant, Blandine va nous présenter Rosalind Franklin, qui a joué un rôle important dans la découverte de la structure de l'ADN.
Oui, alors moi, je vous présentais Rosalind Franklin. Donc ça se passe dans les années 1950. À l'époque, de nombreux scientifiques essayent de comprendre l'ADN et surtout sa structure qui reste encore un mystère. Et donc parmi les chercheurs qui travaillent dessus, il y a Rosalind Franklin, qui est une brillante scientifique britannique. Et donc, grâce à une technique appelée diffraction des rayons X, elle parvient à obtenir des images révolutionnaires qui vont montrer encore ce qu'on n'avait jamais vu, donc la structure en double hélice de l'ADN. Cette découverte, ça va être une avancée majeure, mais Rosalind Franklin ne sera pas reconnue à sa juste valeur. Alors déjà, c'est parce que les photos vont être plus tard transmises à deux autres chercheurs de l'université de Cambridge, donc James Watson et Francis Crick, sans que Rosalind Franklin ne soit mise au courant. Et donc avec ces nouvelles données, Watson et Crick, ils vont boucler leur modèle de la double hélice de l'ADN et publier leur découverte dans une revue scientifique en 1953. Et dans tout ça, Rosalind Franklin n'est même pas mentionnée. Il n'y a pas un mot sur le rôle fondamental de ses travaux. Et donc, encore pire, en 1962, le prix Nobel de médecine est décerné à Watson, Crick et un autre scientifique impliqué, Wilkins, mais pas à Rosalind Franklin, qui entre-temps est décédée à seulement 37 ans. Donc pendant des années, son rôle il est resté dans l'ombre, éclipsé par le succès des trois hommes. D'ailleurs, Watson ne s'est pas privé de la rabaisser dans des écrits, disant qu'elle était froide et qu'elle était incapable d'interpréter ses propres résultats. Et donc, la vie de Rosalind Franklin, ça révèle bien une injustice flagrante et surtout le sexisme scientifique de l'époque. Et donc, c'est que des années plus tard que la communauté scientifique va reconnaître enfin son apport essentiel. Et aujourd'hui, Rosalind Franklin, elle est considérée comme une figure majeure de la biologie moléculaire.
D'accord, merci beaucoup. J'aurais juste voulu savoir si vous connaissiez la première femme ayant été découverte suite après la théorisation de l'effet Mathilda.
Oui, il s'agit de Trotula de Salerne. C'est une figure historique de la médecine médiévale. Elle a été médecin au Moyen-Âge et ses travaux ont marqué la médecine dans les domaines de la gynécologie et de l'obstétrique. Elle vivait au XIe siècle à Salerne, donc en Italie. Elle enseignait à l'école de médecine de Salerne, donc c'est un centre réputé en Europe à l'époque. Et elle s'est spécialisée dans la santé des femmes qui était à l'époque très négligée. Elle a écrit un livre intitulé « De patio nibus mulierum », donc c'est des maladies de femmes, qui traite de nombreux sujets comme la grossesse, l'accouchement ou encore des troubles menstruels. Elle y préconise des traitements à base de plantes et donne des conseils pour une meilleure hygiène. Ses ouvrages ont été copiés et traduits au fil des siècles, mais beaucoup ont douté que son œuvre ait pu être écrite par une femme, et ils ont notamment pensé que Trotula était un homme ou un groupe d'auteurs. Actuellement, son travail lui a été redonné et elle en a les bénéfices, mais elle est morte.
Merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec la musique résiste de France Gall, donc qui est un hymne à la persévérance qui colle bien au combat des femmes scientifiques.
Amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le
Nous revoilà sur Fréquence Mistral de Digne-les-Bains, donc 99.3. Et nous sommes toujours sur Graines d'IUT avec 4 étudiants. Donc nous reprenons toujours sur l'effet Mathilda. Et nous allons avoir un petit débat. Donc moi j'avais quelques questions pour vous. J'aurais voulu savoir si vous savez pourquoi ces femmes ont-elles été oubliées.
Tout simplement c'est à cause du sexisme où les hommes ne jugeaient pas les femmes égales à eux. C'est un peu toujours le cas d'ailleurs. Mais donc ils les jugeaient pas égales et aussi intelligentes. Donc ils les interdisaient, l'accès à l'étude et tout aux femmes. Donc c'était beaucoup plus compliqué aux femmes d'avoir du savoir. Mmh. Et de pouvoir faire des recherches. C'était très compliqué. Et puis quand elles obtenaient des recherches, elles se faisaient discriminer et minimiser par les jurys du prix Nobel.
D'accord. Oui, et à cette époque, donc des milieux très masculins scientifiques, les femmes donc n'y avaient pas accès, comme disait Louan, où elles étaient limitées à des rôles d'assistantes, ou alors quand elles participaient à des études, elles étaient effacées des registres. Mais pourtant, elles ont contribué à des découvertes majeures.
D'accord. Mais du coup, est-ce que vous jugez qu'il est important donc de les mettre en lumière à l'heure d'aujourd'hui?
Oui, c'est très important de les mettre en lumière pour montrer qu'il n'y a pas que les hommes qui ont fait des découvertes, les femmes ont été importantes dans le développement de l'humanité, et que donc les stéréotypes qu'on peut entendre comme quoi les femmes seraient moins intelligentes que les hommes, c'est totalement faux. Et voilà.
C'est aussi un enjeu de société derrière ce phénomène, parce que l'invisibilisation des femmes dans le milieu scientifique, ça alimente des stéréotypes sexistes, selon lequel les hommes seraient plus intelligents. Et donc mettre en lumière ces femmes, ça permet de contrecarrer ces stéréotypes misogynes et aussi de révéler l'importance de leur rôle dans les sciences. Donc ça peut permettre aussi à des jeunes femmes de s'identifier et de savoir qu'elles peuvent devenir aussi des scientifiques. Ça peut permettre à des jeunes filles de s'identifier à des grandes figures.
Vous identifiez, vous, à des grandes figures?
Ça peut... Ça... Oui, peut-être. Je sais pas, j'ai pas encore...
Vous n'y avez pas encore réfléchi? Non. Ça viendra peut-être. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'il y ait plus de prix Nobel, donc comme vous nous avez un peu parlé, chez les hommes que chez les femmes?
Oui, parce que encore maintenant, dans la science, il y a beaucoup plus d'hommes qui travaillent et qui font des recherches. Donc pour le moment, c'est encore normal que ce soit principalement des hommes qui récoltent les prix Nobel, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux dans ce domaine-là, et beaucoup plus que les femmes encore.
Mais oui, aussi parce que les femmes, depuis ces récents, elles arrivent de plus en plus à devenir scientifiques, à faire des recherches, et quand elles font des recherches, de plus en plus, elles se font moins invisibiliser par les hommes.
Mais vous trouvez quand même pas ça injuste que... par rapport à toutes les femmes qu'il y a eu et qui ont fait des recherches, il y a quand même eu plus de prix Nobel.
Ça reste encore très injuste, parce que même si on peut donner des chiffres, il y a seulement 6% des prix Nobel décernés à des femmes depuis 1901, donc c'est très peu. Donc, on sait qu'avant, les femmes étaient très présentes dans le milieu scientifique, donc c'est peut-être pour une des raisons, mais c'est quand même pas très normal. Il n'y a pas trop de... ça pourrait mieux évoluer. Oui. Et d'ailleurs, ça évolue, parce que si on donne l'exemple de la médaille Fields, donc c'est l'équivalent des prix Nobel, mais pour les maths, la première fois femme à l'avoir eu, c'était en 2014. Donc déjà, ça a avancé, c'est quand même très récent.
Très tard. Ouais.
Et aussi, par exemple, pour le prix Nobel, puisqu'on en parlait, là, en 2020, il y a eu le premier duo 100% féminin à obtenir un prix Nobel. Donc bon, c'est quand même très récent, mais il y a eu des avancées.
On avance quand même un peu, c'est pas mal. J'aurais aussi voulu savoir, est-ce qu'actuellement, ces femmes sont reconnues à leur juste valeur?
Les femmes qui ont subi l'effet Mathilda, certaines, on les connaît pas, parce que elles ont été invisibilisées, donc on n'a pas conscience. Mais d'autres, grâce à des documents et tout, on a compris qu'elles ont subi l'effet Mathilda et qu'elles ont été invisibilisées. Et donc, on les a récompensées, même si elles étaient quand même mortes. On leur a donné des hommages, par exemple, comme avec Lise Meitner, où on l'a donné un élément chimique à son nom. Et les femmes actuelles, on les récompense si on sait qu'elles ont fait des recherches. Voilà.
Et vous pensez que...
Moi, si je prends l'exemple de Rosalind Franklin, oui, aujourd'hui, on reconnaît sa contribution, sa contribution indispensable à la découverte de la structure de l'ADN. Et d'ailleurs, certains prix ont son nom, et des instituts aussi portent son nom aujourd'hui. Donc, elle est reconnue.
Et si on prend l'exemple de Ida Noddack, on voit que son nom est noté maintenant sur les découvertes, mais elle n'est pas plus connue que ça.
Oui, donc il y a
plus son mari que
donc,
elle.
Il y a certains noms qui vont entrer maintenant, de nos jours, qui vont être étudiés, non, vous pensez ?
Étudiés ?
Ben, en gros, est-ce qu'il y a certaines de ces femmes dont on va parler en classe ou quoi ?
Ah oui.
Ah bah, oui, si elles sont à l'origine des découvertes et qu'on le sait, bah, on ne va pas parler des hommes qui ont volé leurs découvertes, mais des femmes.
Liz Meitner est déjà dans les livres... Au lycée, on l'étudie déjà pour la fission nucléaire.
D'accord. Et est-ce que l'effet Matilda donc est toujours d'actualité sur quand on parle des femmes qui font des recherches, qui ont des travaux à l'heure d'aujourd'hui. Bah, est-ce que cet effet, il est encore d'actualité
On ne sait pas vraiment parce que c'est des femmes qui se font effacer, donc on n'a pas.
Non, mais est-ce que ce sexisme est toujours d'actualité?
Plus ou moins.
Bah, peut-être, oui. Sûrement, même. Parce que,
En France, vous pensez ?
Il y a encore beaucoup d'avancées au niveau du sexisme à faire. Et donc, oui, sûrement, il doit y avoir encore... Bah, on le sait, aujourd'hui, les femmes sont encore victimes de sexisme. Mais autant que les femmes qu'on a présentées tout à l'heure, je sais pas.
Non, plus autant.
Enfin, j'espère pas, en tout cas.
Elles sont beaucoup moins
visibles. En tout cas, en France, je sais pas, dans d'autres pays où les femmes ont moins de droits, peut-être.
Ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas. Donc aujourd'hui, il est crucial de continuer à promouvoir l'égalité des genres dans la science, donc en veillant à ce que les talents le sexe soient reconnus à leur juste valeur. Donc comme le démontre l'effet Matilda, les femmes ont toujours joué un rôle fondamental dans l'avancement des connaissances humaines, même si l'histoire a trop souvent oublié de le souligner. Et aussi, on aurait voulu vous dire pourquoi on a choisi ce sujet. Donc moi personnellement, c'est parce que on est quand même dans le milieu scientifique à l'UT, donc on est étant trois filles ici, on se sent un peu concernées parce que ça pourrait encore nous arriver à l'heure d'aujourd'hui, donc sur des travaux à l'avenir. Et on avait aussi envie de partager ce phénomène parce que, moi, personnellement, j'en avais pas vraiment entendu parler avant qu'on fasse des recherches là-dessus. Donc, je pense qu'on ne sensibilise pas assez les nouvelles générations ou même les anciennes sur ce qui a pu arriver avant. Je ne sais pas, vous.
Bah oui, parce que c'est un sujet pas vraiment connu. Et par exemple, les anciennes générations ont pu apprendre des choses, des recherches, des découvertes qui ont été faites par des femmes mais volées par des hommes. Donc, c'est bien de se renseigner, de connaître cet effet Matilda. Ce phénomène.
Et il nous touche en pas pour remettre ces femmes en lumière aussi.
Exactement.
Eh bien, merci beaucoup à vous. En tout cas,
on a aussi choisi ce sujet parce que, personnellement, à cette époque, vu qu'elles étaient très peu intégrées dans le milieu scientifique et que c'était un milieu que d'hommes, elles étaient quand même très courageuses de s'imposer comme ça et même de travailler dans le milieu scientifique. Et ça a été des pionnières pour ça.
Après, c'est pareil. Pour parler toujours du sexisme, encore à l'heure d'aujourd'hui, on se bat pour ça, donc pour avoir encore nos droits et pour justement en faire entrer les femmes dans l'histoire.
Exactement. On se bat tous les jours pour les droits des femmes et c'était important d'en parler aujourd'hui
à travers les histoires
de ces femmes qui ont souffert de l'effet Matilda.
Oui. Et...
Et puis, ouais, l'effet Matilda contribue au sexisme d'aujourd'hui. À cause de ça, le sexisme est davantage présent. C'est pour ça qu'il faut bien avoir conscience.
Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir écoutés. On remercie la radio donc Fréquence Mistral de Digne-les-Bains de nous avoir accueillis ce soir. Et merci à vous trois d'avoir partagé toutes vos connaissances avec nous. Et bonne soirée à tous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. We run.
get back to business. See, you better not play me. Oh, come here, baby. Hope you still like me if you pay me.
My persuasion can build a nation. Endless power. Without love, we can devour.
You'll do anything for me.
Side as the dust flies, watch it burn.